foi et turbulence.
Bonjour et salutations à tous et à toutes. Ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de Foi et Turbulence. Nous sommes le mercredi 11 septembre 2019. Alors, bienvenue à cette table ronde, la première de cette année, de cette nouvelle saison, une table ronde qui, deux fois par mois, va accueillir des chroniqueurs, des observatrices, des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité récente. Nos invités, ils sont habituellement trois, nous aident à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. Alors, on demande à ces spécialistes de chercher et surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes les informations qui nous submergent. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors, cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Laissez-moi vous les présenter. Alors, on trouve d'abord Louis Rousseau, professeur émérite au département de sciences et religions de l'UQAM. Bonjour, Louis. Participe aussi à cette table ronde pour la toute première fois Mireille Dastou, doctorante en bioéthique, éthique et théologie à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Bienvenue. Et Foi et Turbulence accueille cette semaine Frédéric Barriot, responsable de la recherche et des communications au Centre Justice et Foi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette semaine, il sera question de la crise que traversent les médias d'ici, des feux de forêt en Amazonie, de la loi 21 adoptée cet été. Mais d'abord, discussion des prochaines élections. Alors, c'est officiel, c'est aujourd'hui même, le mercredi 11 septembre, que le premier ministre Justin Trudeau va se rendre chez la gouverneure générale Julie Payette pour lui demander de dissoudre le 42e Parlement qu'il préside depuis, qu'il dirige en fait depuis 2015. Il y aura donc des élections dans 41 jours, le 21 octobre. Ce sera une campagne courte. Je vous rappelle qu'en 2015, elle a duré 78 jours. Cette année, comme en 2015, les électeurs et les électrices vont exercer leur droit de vote dans 338 circonscriptions dans tout le Canada. Justin Trudeau, du Parti libéral du Canada, va chercher à obtenir un nouveau mandat comme premier ministre. Le Parti conservateur est dirigé par Andrew Scheer et le talonne de près. Il y a aussi d'autres chefs dont on va beaucoup entendre parler. Jacques Metzing au nouveau Parti démocratique. Le Bloc québécois est actuellement dirigé par Yves-François Blanchet, un nouveau venu, en tout cas, à la tête du Bloc québécois. Le Parti vert par Elisabeth May pour une autre élection générale. Et le Parti populaire du Canada, un nouveau venu, est dirigé par Maxime Bernier. Alors, allons-y tout de suite. Plusieurs sondages placent les libéraux et les conservateurs à égalité dans les intentions de vote et prévoient déjà que les autres partis obtiendront de faibles résultats. Tout n'est pas joué, bien sûr, Frédéric, mais on peut penser que c'est une bonne analyse, en tout cas.
Oh oui, tout à fait. Là, je pense que on en a pas beaucoup parlé cette dernière semaine, mais c'est clair que vraiment l'horizon qui est celui donc du scandale de SNC-Lavalin, hein, c'est ça qui a vraiment, je pense, propulsé, accéléré finalement les choses. Mais bon, pour le moment, effectivement, on est au coude à coude. Là, j'ai l'impression que c'est ça, Monsieur Trudeau entraîne ce lourd passif-là, mais de très nombreux autres aussi. Hein, faut quand même le reconnaître là, sur la question donc écologique, environnementale. Il est assez clair qu'entre la COP 21 finalement et son appui quand même. Je le dirais que qu'elle ferait quand même de sans réserve donc au déploiement d'un pipeline, évidemment elle a disposé donc de vastes secteurs donc de l'électorat qui est à la recherche finalement d'une alternative. Je suis pas convaincu que l'alternative loin s'en faut ce soit évidemment les conservateurs de Andrew Scheer, mais il reste quand même que voilà, on en est là donc le momentum dont s'était doté monsieur Trudeau finalement c'est sauf à raison je pense qu'à gauche comme à droite voilà, là, ça se bouscule.
En tout cas, ça a pris 4 ans, en tout cas, ou peut-être même moins, là, pour détruire ce momentum-là. Je vous rappelle qu'en 2015, le Parti libéral du Canada avait fait élire 184 députés. Le Parti conservateur en avait obtenu la moitié, là, quoi, 99. Mm-hmm. Alors, c'est quand même un grand revirement. C'est peut-être pourquoi le premier ministre Trudeau a décidé de faire une campagne la plus courte possible. Est-ce que ça ne va pas lui nuire, d'une certaine manière, le Louis Rousseau?
Le choix de faire une campagne rapide de la part du premier ministre, à mon avis, traduit la conception, la perception, le jugement que plus elle va être longue, plus les autres partis vont avoir l'occasion de s'attaquer aux partis majoritaires. Je crois que c'est une stratégie assez classique et que probablement, enfin, c'est difficile à dire pour nous maintenant, le charisme du chef conservateur n'étant pas aussi fort manifestement que celui du chef libéral. Et par ailleurs, une campagne électorale, c'est une courte période au cours de laquelle il peut arriver l'imprévisible absolu. Donc, tout le monde est sur les blocs de départ ce matin. Nous allons voir ce que ça va donner.
On a l'impression qu'il risque d'y avoir beaucoup de perdants à l'intérieur de cette campagne-là. Et je pense, entre autres, au parti de M. Maxime Bernier, là, qui veut se lancer à la conquête du pouvoir, qui, même en lançant son parti, disait qu'il était certain de devenir le premier ministre. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de briser, d'une certaine manière, les forces conservatrices au Canada? Allez-y là-dessus, Mireille.
Bien, moi, je pense que... Maxime Bernier ne brille pas par sa crédibilité, par ses prises de position qui sont très controversées. Évidemment, le dossier de l'avortement, par exemple. Je crois que en 2015, il faut pas oublier qu'il y a une partie des électeurs qui avaient opté pour un vote stratégique aussi. C'est peut-être pour ça aussi que... il y a eu du changement. Il y avait de l'insatisfaction à l'époque par rapport au gouvernement conservateur. Aujourd'hui, bon, comme le disait Frédéric, il y a quand même le gouvernement libéral n'a pas rempli peut-être toutes les attentes. Donc, il faut avoir des attentes, je crois, modestes par rapport à ce gouvernement-là. Moi, je regarde aussi à l'échelle internationale beaucoup la politique et je dois dire que malheureusement, certains dossiers, comme justement l'avortement qu'on croyait des dossiers réglés, se représentent à la table. Et étant donné qu'au Québec, la culture est assez progressiste par rapport à ça, on oublie un peu facilement les vagues qui se produisent, que ce soit dans l'Ouest canadien ou, on sait qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus clair là ce qui est en train de se passer par rapport au recul du droit des femmes. Alors moi, je regarde beaucoup ces dossiers-là. Je me questionne à savoir quel meilleur parti peut représenter les droits des femmes, entre autres. Ça, c'est un enjeu qui est important pour moi dans la campagne. D'ailleurs, moi, je suis beaucoup aussi la représentativité des femmes en politique. C'est un dossier dont on entend de plus en plus parler. On en a entendu parler aussi pendant les élections provinciales. Et il y a beaucoup de travail à faire. La parité n'est pas atteinte, règle générale. Et de plus en plus, on se questionne aussi sur comment les femmes sont représentées et comment elles sont attaquées aussi, je dirais, par les adversaires. Est-ce qu'on les attaque sur leur apparence physique, par exemple? Est-ce qu'il y a des formes de sexisme, peut-être, qui se présentent, même dans nos campagnes électorales, de manière, je dirais, un peu inconsciente? Alors, c'est ça, là, moi, qui me préoccupe en ce moment.
Alors, certainement, vous avez raison, en tout cas, de le rappeler. Je vous rappelle, en 2015, il y a 1792 candidats et candidates qui ont été confirmés pour les différents partis qui se présentaient. De ce nombre, 536, c'était des femmes, donc 30 %. Alors, on verra, même si dès aujourd'hui la campagne est lancée, on sait que plusieurs partis n'ont pas rempli l'ensemble de leurs candidatures là, pour les différents postes. Parlant justement d'une de ces candidatures-là, il y en a une qui a été un peu crève-cœur d'une certaine manière. Ça s'est passé avant même le lancement. C'est ce qui s'est passé dans la circonscription Saint-Léonard-Saint-Michel. Il y a déjà bon, deux mois, nommé Hassan Guillet, un ex-imam qui s'est fait connaître, entre autres, après la tuerie de Québec, la Grande Mosquée de Québec, parce qu'il avait prononcé l'allocution lors des funérailles des victimes. Hassan Guillet avait obtenu ce poste-là là, pour en tant que candidat libéral. Et le 30 août, sa candidature a été révoquée. C'est un sujet sur lequel vous vouliez revenir, Louis Rousseau.
Je crois que c'est important. Il y a une thématique dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est toujours présente dans le politique, c'est la place du religieux, des appartenances religieuses. On sait bien que le Parti conservateur, surtout dans l'Est, dans l'Ouest, c'est-à-dire, est très lié à un électorat de type évangéliste, marqué un peu par les accents conservateurs et les thèmes particuliers à l'évangélisme conservateur américain. J'ai été... en un sens, heureusement surpris d'apprendre que l'imam Hassan Guillet se présentait dans une élection. Voilà un candidat qui avait fait la preuve, au niveau de l'opinion publique et de ses comportements, d'une très haute qualité intellectuelle et spirituelle. Et vous l'avez souligné à l'occasion, on l'a découvert tout le monde, lorsqu'il a prononcé certainement le plus beau discours lors du rituel de deuil au moment de suite aux événements de la Grande Mosquée de Québec en décembre 2017. Et voilà donc quelqu'un qui avait marqué par une pensée universelle et une pensée qui montrait, je crois, probablement le plus beau de l'héritage de la tradition musulmane. Il se présente, j'allais dire, la plupart des électeurs sont sensibles au fait que les élections et la politique, ça c'est pas tout à fait l'équivalent d'un noviciat religieux. Il y a du pire et du meilleur. Je me réjouissais qu'un homme de cette qualité-là se présente et joue sur la scène, d'autant plus qu'au Québec, quelqu'un qui était capable en même temps de représenter la différence musulmane de manière positive me semblait un acquis. Voilà que tout d'un coup, alors qu'il a gagné contre tout ce que le monde disait, c'est un comté, j'allais dire, de politique italienne, traditionnellement, et voilà que, évidemment, la population a changé. Mais... ce coup-là, on peut après coup dire qu'il était bien naïf. Parce que les forces qui ont dénoncé des écrits ou des prises de position qu'il avait déjà eues et qu'il avait consciemment discuté, clairement discuté avec les camps du Parti libéral, voilà qu'il se fait expulser. On a là simplement le reflet du fait que les principaux partis politiques au Canada sont pro-Israël, et qu'ils ont même accepté une définition élargie de ce que c'est que l'anti-judaïsme, l'antisémitisme. Toute personne qui attaque l'État d'Israël est plus ou moins donc déjà sur la voie de l'antisémitisme. C'est une horreur, c'est une personnalité qui a montré que ce n'est pas le cas. Donc on a ici une manipulation, si vous voulez, des prises de position en faveur d'une justice en terre palestinienne et israélienne. Et voilà, les élections, de ce point de vue-là, se présentent sous un chef qui déculotte un peu les forces politiques. Reste à voir qu'est-ce qui va arriver, puisque nous pensons, il nous dit qu'il va continuer à se présenter.
Alors, rappelons que c'est le 30 août là, que l'organisme Bnei B'rit a découvert sur Facebook que le candidat Hassan Guillet aurait tenu des propos anti-israéliens et qu'il jugeait aussi antisémites. Et la réponse a été extrêmement rapide du premier ministre Trudeau, alors qu'Hassan Guillet a présenté des excuses pour des écrits qu'il avait fait bien avant la tuerie de la Grande Mosquée. Malgré qu'il ait présenté ses excuses, qu'il ait répété combien il était, qu'il n'était pas antisémite et certainement pas islamophobe. Alors, malgré tout, une heure plus tard, la révocation était directe. J'ai l'impression aussi que c'est ce qui se passe aussi maintenant, dorénavant, dans notre ère des médias sociaux. Tous ceux et celles qui vont se présenter, vous êtes mieux d'avoir fait le ménage à l'intérieur de vos comptes sur Facebook et Twitter, parce qu'on va analyser chacun des appuis, chacun des j'aime que vous avez professé envers différentes personnes. Et j'ai l'impression que M. Aguillet n'est que le premier là, de toute une série de candidats et de candidatures qui vont devoir s'expliquer pour des anciennes positions. C'est ce que vous sentez aussi, Frédéric?
En fait, j'aurais eu plutôt eu envie de faire du pouce sur ce que Louis vient de dire, c'est-à-dire que hein, le retour du religieux, je pense, au retour, si retour il y a, mais prenons le cas, par exemple, donc de Jack Mitzing. Hein, donc, on a encore une fois ici un chef de parti hein, qui ne fait aucun secret donc sur son affiliation confessionnelle. Donc,
mais c'est le chef.
Il tente de faire la preuve. Donc, il y a quelque chose quand même ici, un nouveau moment. Et quand même, on n'a qu'à franchir au sud de la frontière et on l'observe de plus en plus, hein, cette nouvelle gauche socialiste au sein du Parti démocrate, où donc des gens vraiment exhibent vraiment assez clairement donc leur attachement à une tradition religieuse donnée, mais donc ce retour finalement de ce qu'on qualifie vraiment de gauche religieuse, il y a quelque chose ici d'intéressant, mais en même temps on sent bien ici donc le malaise hein, et on le voit très bien particulièrement dans le Québec post loi 21 hein, le fait que par exemple Monsieur Singh ait retiré son turban pour sa voilà donc
Alors, j'imagine qu'on aura bien l'occasion d'en parler d'ici les élections. Alors, je vous rappelle que tout le monde attend actuellement Justin Trudeau sur la colline parlementaire. Il doit se rendre chez la gouverneure générale Julie Payette pour lui demander de dissoudre le 42e Parlement et donc de lancer officiellement les hostilités, d'une certaine manière, jusqu'au 21 octobre pour l'élection du 43e Parlement du Canada. Alors, du Canada, on passe au Québec. Je vous rappelle, vous le savez tous, le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État a été adopté, en fait, sous le bâillon le dimanche 16 juin 2019 à 22h30 de la soirée, juste avant que les députés n'aillent en vacances. Alors, 73 députés ont voté en sa faveur, 35 ont voté contre. Ceux qui ont voté en sa faveur sont évidemment les députés de la CAQ et les députés du Parti québécois. Le journal Le Devoir révélait cette semaine que la loi sur la laïcité de l'État faisait déjà quelques victimes. Une enseignante montréalaise qui, portant le hijab, s'est fait avertir de retirer son voile avant le 10 septembre, a appris Le Devoir. Et deux enseignantes voilées se sont fait refuser des contrats à cause de leurs signes religieux au moment où la pénurie d'enseignants prend de l'ampleur, disait-on dans Le Devoir. Mais le projet de loi sur la laïcité est enfin adopté, a dit M. François Legault immédiatement après le vote. Dorénavant, les signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité seront interdits. Nous avons écouté les Québécois et avons enfin tourné la page sur un débat qui perdurait depuis plus de 10 ans, a déclaré François Legault sur Twitter. Louis Rousseau, a-t-on vraiment tourné la page?
Je crois que personne ne pense vraiment que la page a été tournée. On a simplement ouvert un nouveau chapitre, soit celui d'un débat public, d'une part, qui va se continuer dans la cour, puisque déjà il y a des gens qui contestent la légitimité de ce processus-là, adopté, bon, on le sait, à forte majorité et appuyé par une bonne majorité de la population. Est-ce que la démocratie, c'est simplement on compte le nombre de votants et on décide que c'est la majorité qui a raison, ou si nous sommes une société de droit? Donc, le débat porte là-dessus. Est-ce que le droit des personnes à vivre à l'intérieur de la paix sociale avec ce que leur religion leur demande, leur propose de faire, est-ce que cette liberté de pratique de sa foi peut être mise de côté comme la loi le fait? Il y a eu équivoque là-dessus. En particulier, lorsque cette loi-là rejoint les enseignants, je dirais, on parle au masculin, mais c'est surtout, bien entendu, tout le monde le sait, il s'agit des femmes musulmanes qui choisissent, certaines d'entre elles, je le rappelle, pas toutes, de porter le voile. Le problème, c'est est-ce qu'une enseignante ou un enseignant représente essentiellement l'État? Est-il le représentant de la loi ou s'il est représentant d'un programme adopté majoritairement qui s'appelle le programme de l'École québécoise? Je pense, pour ma part, que l'enseignant ou l'enseignante ne représente pas l'État comme un policier, par exemple, ou un juge parle et agit au nom de la loi. L'enseignant agit au nom du programme, ce programme-là démocratiquement accepté. Donc, l'horreur, c'est de découvrir, nous le savions déjà, nous savions qu'il allait avoir des femmes dont la vie allait être modifiée, dont à qui l'État demande, impose de ne pas porter ce qu'elle estime devoir porter. Et on n'est pas sorti du bois. Moi, je pense que le gouvernement actuel prépare une bataille constitutionnelle pour dans quelques années, dans lesquelles ça va être le Québec versus le reste. Très malheureusement.
Déjà, on a constaté en tout cas quelques dérapages là, dans l'application de cette loi, ou enfin dans la compréhension que les gens avaient de cette loi. Vous avez vu ces parents, par exemple, qui ont demandé, exigé que leurs enfants n'aillent pas dans une classe qui était dirigée par un professeur portant un voile, puisque les gens qui portaient déjà le voile ont le droit de continuer de porter ces symboles religieux-là tant qu'ils ne changent pas d'emploi ou d'affectation. Alors, et là, le
voile premier... comme maladie contagieuse.
Voilà. Alors, voilà. Allez-y, Frédéric, ça vous choque, cette histoire-là?
Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je qualifie souvent de laïcité de Javel. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui s'agit d'aseptiser, donc de faire disparaître de l'espace public la seule vue du signe religieux. Donc, ce qu'on a perdu de vue ici, c'est la présomption d'innocence, finalement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent ne pas porter de signe religieux, mais en porter un intérieurement, finalement. C'est-à-dire que c'est sur la base de leurs actes ici professionnel, ici sur la relation pédagogique qu'on devrait juger finalement, donc le travail que font ces enseignantes, les enseignantes-là. Et là, on part de la prémisse, à mon avis absolument fausse, là, que le seul port de signe religieux, comme si le signe religieux avait un pouvoir quasi hypnotique là, sur l'esprit des élèves, sur l'esprit des enfants. Donc, je pense qu'il est là le problème, il est là tout à fait le problème, mais comment peut-on accepter finalement que certains membres du Parlement, finalement, eux-mêmes portent un signe religieux et font très bien la part des choses entre leur enracinement dans une tradition religieuse et leur engagement pour le bien commun, et qu'on refuse ce même droit-là, finalement, à des hommes et des femmes, finalement, et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, finalement, qui se donnent sang et eau, finalement, pour éclairer les esprits de nos enfants.
Alors, on va retenir ça, cette expression-là, une laïcité javelisante. Alors, c'était de Frédéric Barriot. Mireille Dastou, on n'a pas vraiment tourné la page avec ce débat-là. Alors, c'est clair que ça va se poursuivre.
Oui, le débat va se poursuivre. En fait, moi, je questionne aussi la manière dont le dossier a été mené. Moi, j'ai été impliquée au point de vue politique et juridique dans le dossier qui a tourné autour de l'éthique des soins de fin de vie. Et je rappelle que la commission parlementaire spéciale sur la question de mourir dans la dignité, les travaux avaient duré pratiquement 2 ans. Et il y a eu quand même encore réflexion pendant près d'une année avant qu'on arrive à une première version du projet de loi qui a finalement été adopté. Je le donne comme exemple simplement pour dire que quand on est dans des questions aussi sensibles, aussi délicates, que ce soit la religion, que ce soit la fin de vie, il me semble que politiquement et démocratiquement, on devrait prendre le temps de réfléchir à tous les aspects de la question pour éviter justement qu'il y ait des personnes qui soient brimées par la loi ou qui soient victime d'une loi. Et donc, moi, j'inviterais à une réflexion plus approfondie par rapport à ce dossier-là. Effectivement, je pense que ça va continuer. Vraiment, il faudrait peut-être revoir le processus. Je sais que certains ont critiqué le fait que les groupes de la société civile, certaines associations ont été invitées à l'Assemblée nationale pour donner leur opinion sur la loi, mais en fait, quand la loi était déjà écrite. Alors, on se retrouve un peu devant le fait accompli, là.
Très bien. C'est un bon point. C'était aussi, plusieurs ont reproché, entre autres, que peu de groupes religieux aient pu s'exprimer, même lors de cette rencontre-là, contrairement à ce qui s'était passé pour la commission parlementaire sur les soins de fin de vie, où là, l'ensemble des intervenants dans le monde éthique et religieux avaient pu aussi intervenir dans ce dossier-là. On a l'impression que en 2022, là, on va revoir toute cette loi-là et le nouveau gouvernement qui remplacera François Legault va tout simplement abroger cette loi-là, comme on le dit du côté du Parti libéral. Allez-y, Frédéric.
Ben effectivement, il y a plusieurs analyses qui circulent à l'effet que, de fait, ce serait vraiment l'élection de 2022 serait une élection qui va être finalement plébiscitaire, c'est-à-dire le parti qui sera appelé à président destiné du Québec aura la délicate question de soit reconduire cette dérogation à la clause, à la Charte canadienne des droits, mais aussi il y a la question de l'abrogation de nombreux articles de la Charte québécoise des droits et libertés qui avait été adoptée, rappelons-le, à l'unanimité en 1975. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'un nouveau nationaliste plus conservateur pratiquant ce que Jean Bobéro appelle une laïcité falsifiée, finalement, est-ce que c'est ça, finalement, qu'on va reconduire ou est-ce que ce sera une autre vision, à mon humble avis, plus inclusive, donc d'une véritable laïcité?
Alors, je vous rappelle que le projet de loi sur la laïcité de l'État a été adopté sous le bâillon le 16 juin 2019 par l'Assemblée nationale. 73 députés ont voté en sa faveur, 35 ont voté contre. La loi 21 a toute la force maintenant qu'elle a et est actuellement appliquée, particulièrement dans les écoles du Québec. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Cette semaine, je suis avec Louis Rousseau, professeur émérite au département de sciences et religions de l'UQAM, Mireille Dastou, doctorante en bioéthique, éthique et théologie à l'Université Laval, et Frédéric Barriot, responsable de la recherche et des communications au Centre Justice et Foi. Alors, on a parlé du Canada, du Québec, et maintenant, on s'en va en Amazonie, où là, ça brûle. L'Amazonie brûle. Les feux de forêt ont augmenté de 83% depuis le début de cette année au Brésil par rapport à l'ensemble de 2018. Et c'est seulement dans les derniers jours qu'on a appris ces chiffres-là et qu'on a vu l'ampleur du désastre. Le 25 août, l'Institut national de recherche spatiale du Brésil avait recensé plus de 41 000 foyers d'incendie en Amazonie brésilienne depuis le début de l'année. Les scientifiques estiment que ces incendies sont le résultat de la déforestation. Après avoir abattu les arbres d'une parcelle et évacué le bois exploitables et défricheurs, qui sont souvent de grands propriétaires terriens, allument des feux pour éliminer la végétation restante, déplorent les scientifiques. En pleine crise climatique mondiale, nous ne pouvons pas accepter davantage de dégâts sur une source majeure d'oxygène et de biodiversité, dit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Ce à quoi le président brésilien Jair Bolsonaro a insinué de son côté que c'était des ONG qui avaient provoqué les incendies afin d'attirer l'attention sur son gouvernement et la pauvreté de ses politiques environnementales. Lors du sommet du G7, le gouvernement français a insisté auprès de Bolsonaro pour qu'il agisse davantage contre les dramatiques incendies en Amazonie. Jair Bolsonaro a répliqué en fustigeant, c'est son homologue français, une mentalité colonialiste. Il a demandé à ce que le président Macron présente ses excuses avant d'accepter toute aide internationale. Louis Rousseau, c'est certainement un sujet dont on parle peu ou on parlait très peu. C'était peu. D'une certaine manière, tout le monde sait l'importance de l'Amazonie pour la biodiversité, mais en même temps, on n'avait pas conscience de l'ensemble de cette situation. C'est une situation qui est absolument dramatique, là.
Oui. Les faits que vous venez de décrire, évidemment, ont touché beaucoup de gens. Certaines personnes ne savent pas qu'en réalité, le problème mondial, terrestre que cela pose, c'est que c'est le poumon qui absorbe le plus de carbone parmi toute la biologie terrestre. Donc, c'est à cet égard que ces crimes-là, un par un, sont, on peut le dire, presque insignifiants, mais à la proportion que vous venez de décrire, ils représentent un très grave danger, non simplement pour le Brésil lui-même, mais surtout pour le reste de l'humanité. C'est un héritage, l'Amazonie, qui touche plusieurs peuples. Le Brésil est un des peuples dont l'Amazonie fait partie. Et malheureusement, c'est un dictateur, pour ainsi dire, quelqu'un qui est un militariste nostalgique, un néocolonialiste contre les peuples indigènes, parce qu'il y a, beaucoup de peuples qui vivent de cette forêt-là. Politiquement, un néolibéral dur contre toutes les règles qui contrôlent. Et ici, manifestement, ce qu'il s'agit, c'est de contrôler les règles qui empêcheraient cette forêt, qui protégeraient, en quelque sorte, cette forêt. Donc, c'est un populiste qui vise à liquider tous les acquis provenant de 15 ans de gauche plus progressiste du point de vue de la justice sociale, de l'éducation, la santé, etc. Donc, c'est une situation à la fois intérieure et extérieure, gravissime. Et c'est un cas classique où l'intervention internationale, par exemple des Nations Unies ou de tout autre peuple, il y a une plateforme, c'est acceptable. Et le Canada peut tout autant, d'une certaine manière, être sous la loupe de l'observation internationale, compte tenu que le Canada, dans ses forêts boréales, entre autres, fait partie des grands poumons de l'humanité. Donc, ce n'est pas comme Canadiens que nous devons protester, c'est comme citoyens du monde que la protestation doit se déployer.
Oui, il reste que la communauté internationale a tenté, en tout cas, d'aider, d'une certaine manière, ce gouvernement-là, qui, disons-le, qui est quand même sceptique là, par rapport à toute la question du climat. Là. Il n'est pas le plus grand défenseur du climat et de l'environnement, là, M. Bolsonaro.
Non, il ne faut pas perdre de vue. Hein. Donc, ce qu'on appelle en politique brésilienne, les 3 B, il y a 3 grands lobbies, finalement, qui ont permis son élection en bonne partie. Le premier B, celui de la Bible, hein, les groupes évangéliques. Lesquels font une lecture d'ailleurs très littérale, hein? Genèse chapitre 1, 26 et 27, soumettez la terre et toutes ses créatures, pour lesquelles il y a vraiment un climato-scepticisme assez profond. Deuxième lobby, et non le moins, le lobby du bœuf, hein, les grands propriétaires terriens éleveurs, donc, de bœuf. Donc, on déforeste. Donc, on aggrave, donc, la situation des changements climatiques. Et pour y mettre, finalement, on fait un élevage intensif du bœuf. Et on le sait, hein, c'est dans notre assiette, c'est vraiment l'ennemi public numéro un en ce moment, c'est la viande rouge et particulièrement le bœuf. L'autre B, les balles, c'est-à-dire le lobby des armes. Et c'est très clair, hein, quand il disait aux ranchers de la frontière du Nord-Est, entre autres régions, mais aussi donc des régions frontalières à l'Amazonie, hein, on va vous armer, on va vous permettre d'aller chasser littéralement vous-même les peuples autochtones qui font obstacle à votre prospérité. Là, on est là, on est vraiment dans... Donc, évidemment, un bon populiste qu'il est, hein, donc il fait écho, bien entendu, à la fois ce qu'il a annoncé, mais aussi donc aux échos à ce qu'il avait en quelque part proposé et promis. Là. Donc, on est là.
Ce qu'on a aussi observé durant cette été, c'est qu'une situation aussi dramatique que ça a pu déraper, entre autres, au niveau politique, lorsque l'entourage du président Bolsonaro s'est mis à attaquer le président Macron, le président français, et particulièrement son épouse. C'était pas de la grande politique, ça, Mireille Dastion.
Non, effectivement, même au niveau... de son commentaire sur le colonialisme. Ici, faudrait définir ce qu'est le colonialisme et ce qu'est aussi la décolonisation. Parfois, je pense qu'on accuse rapidement les pays occidentaux qui ont déjà, oui, pratiqué le colonialisme, il ne faut pas le nier, qui probablement continue dans certaines formes. Il faut faire attention là ici avant d'accuser la France de colonialisme, je crois. Par ailleurs, surtout dans une question environnementale comme ça, par ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez, je trouve très dommage qu'on ait juste osé souligner la relation entre Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, si ma mémoire est bonne, et qu'on ait souligné la différence d'âge. D'un point de vue, je dirais, d'une lecture féministe de la chose, on se retrouve ici face à une forme de sexisme où les femmes qui ont des partenaires plus jeunes doivent se justifier constamment dans leur famille, dans leur environnement, alors que le contraire n'est pas du tout vrai. Alors ici, on est dans une forme justement d'inégalité ou de standard que les femmes doivent encore porter, justifier. Et là, on a attaqué le président sur cet aspect-là. Je trouve que c'est vraiment de la politique assez basse, effectivement, là, ici.
Alors, je vous rappelle que l'Amazonie brûle. Les feux de forêt ont augmenté de 83 % depuis le début de cette année au Brésil par rapport à l'ensemble 2018. La forêt brûle toujours en Amazonie actuellement. Alors, pour notre prochain segment, on va faire quelque chose d'un peu plus long parce que ça nous intéresse, parce qu'on est aussi nous-mêmes un média, puisqu'on travaille dans les médias. Mais je vous rappelle que la nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Le groupe Capital Média, qui est propriétaire de 6 journaux quotidiens régionaux, s'est placé le 19 août dernier sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. Les finances du propriétaire du Soleil de Québec, de la Tribune de Sherbrooke, de la Voix de l'Est de Granby, du quotidien de Chicoutimi, du Droit de Gatineau-Ottawa et du Nouvelliste de Trois-Rivières sont aussi mauvaises que ça, que le gouvernement a dû consentir un prêt d'urgence de 5 millions de dollars pour assurer au personnel de ces journaux leur prochaine paye et s'assurer aussi qu'ils puissent recevoir leur salaire jusqu'à Noël ou au moins jusqu'à ce que de nouveaux propriétaires se manifestent. Quelques jours plus tard, se tenait à Québec une commission parlementaire sur l'avenir de la presse. Tous les médias sont en difficulté, a-t-on appris, perdant constamment des lecteurs et d'électrices, mais surtout des publicitaires qui ont migré vers les GAFA, ces entreprises web qui accaparent tout le marché de la publicité et du commerce en ligne. Les GAFA, je vous rappelle, c'est un acronyme pour parler des 4 géants américains que sont Google, Apple, Facebook et Amazon. Un sale temps pour les médias. Beaucoup craignent, entre autres, pour la diversité de l'information régionale. Est-ce que c'est une crainte justifiée? Allez-y, Frédéric, vous êtes dans le monde des médias, même si vous êtes dans une revue un peu plus petite, mais qui fait face aussi à des défis financiers comme tous les autres médias.
Ah, c'est effectivement une crise des médias. Je parle souvent avec des collègues qui sont communicateurs dans les paroisses et dans les diocèses particulièrement. Et donc, l'un des reflets finalement les plus fidèles de l'actualité régionale, ce sont ces médias locaux finalement qui s'intéressent à ce qui se passe dans la vie, dans les régions, dans le numéro de l'automne dernier, hein, donc sur le mal développement régional.
Dans la revue de la relation,
donc on l'avait déjà souligné. Donc, il y a une crise des médias, évidemment, qui est multiforme, mais qui frappe de manière plus importante, évidemment, les régions. Donc, c'est clair que c'est, à mon sens, c'est amplement justifié, c'est nécessaire, parce que, évidemment, quel contre-discours et quel contre-poids peut-on avoir, finalement, si cette presse-là s'en va? Mais en même temps, bon, ça pose un certain nombre de questions. C'est développé, et aussi dans nos habitudes de consommation, donc une culture de la gratuité, là. Et c'est développer une culture de la gratuité, et on le voit de plus en plus. Par le biais des médias sociaux, il m'arrive fréquemment de demander, je le confesse publiquement ici sur les ondes, donc de demander, pouvez-vous m'envoyer le texte in extenso, s'il vous plaît? Mais voilà, là, donc, alors que...
On n'est pas prêt à payer.
Alors que n'importe quel artisan, on partira pas avec une baguette de pain de la boulangerie en disant, je veux parler de votre boulangerie, alors qu'on le fait on le fait de plus en plus. Donc, il y a une véritable culture de la gratuité qui est à changer. Mais je pense qu'il y a un autre changement d'échelle et on aura l'occasion d'y revenir. Donc, comment aussi assurer un financement qui va être durable ici?
On a l'impression, dans toute cette crise-là, d'abord, c'est que ça a été une onde de choc. Là. On s'est rendu compte, quoi? Demain, on pourrait, les 6 journaux régionaux pourraient ne plus paraître parce que c'est ça qu'on a vécu. C'était un précipice, là, directement, sans l'intervention du gouvernement québécois. Et on apprenait par la suite que non seulement le nouveau propriétaire devra non seulement éponger ces dettes-là, mais devra aussi verser de l'argent dans les fonds de pension des employés, puisqu'on a touché à cet argent-là pour pouvoir survivre dans les dernières années. Donc, ça a été une effet d'une bombe, ça a été une onde de choc, et en même temps, plusieurs personnes disent ben les médias n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas su s'adapter au nouveau règne qui existe depuis 20 ans. Allez-y là-dessus, Louis Rousseau.
On peut effectivement rendre les médias eux-mêmes responsables de ne pas avoir vu. En fait, on a vu depuis déjà quelques années. Là, c'est pas la cloche, elle sonne pas depuis deux mois. Là, c'est on voit l'effondrement graduel du financement des médias qui dépendaient essentiellement de la publicité, pas tous, se produire. Et bien sûr, on sait d'où ça vient principalement. C'est lié à Internet. C'est lié aux agrégateurs qui peuvent piller les productions culturelles d'information largement, c'est dont on parle présentement, mais aussi c'est les travailleurs qui fabriquent de la musique, qui fabriquent des textes. Mm-hmm. On peut d'une autre manière, une autre manière de jeter à ça, c'est que la loi protégeant les auteurs qui produisent du texte basé sur une compétence, sur un travail et qui ont besoin de vivre. Enfin, c'est des gens qui sont des salariés ou des pigistes, mais ils ont besoin qu'il y ait des sous quand ils travaillent une heure, que ça leur donne la capacité de survivre. Alors, un des aspects que je peux souligner, c'est l'irresponsabilité du régulateur étatique qui permet à des grands agrégateurs, évidemment, extraordinairement peu puissants, qui ont des budgets qui dépassent souvent le budget de beaucoup d'États, de s'approprier de la matière qui a coûté des sous à produire pour la diffuser partout. Et moi aussi, on est tous ceux qui vont sur Internet, à un moment donné, sont très heureux de découvrir qu'un copain ou une copine a lu un très bon article dans un journal auquel, moi, je ne suis pas abonné et que j'ai la chance, grâce à ça, de le lire gratuitement. Quand je le lis, Je bénéficie de la compétence de producteurs. Lesquels producteurs sont des employés d'une boîte, laquelle boîte se fait en même temps voler. Alors, ce vol, l'État, oui, peut le protéger.
Avec
l'interdire.
La loi sur les droits d'auteur, par exemple.
En plus, changer sa loi et demander à ses GAFA de payer simplement l'impôt que paient toutes les corporations. Alors, il y a deux thèmes qui sont l'objet de débat et qui sont une partie de la solution. Le troisième, c'est nous, le consommateur. Hein? Je pense qu'on devrait tous s'abonner à quelque chose, financer, donner, parce que nous avons notre responsabilité. Nous profitons du bien d'autrui. Pour ressortir une vieille définition du vol que j'ai appris, moi, dans mon petit catéchisme du Québec, il y a trop longtemps.
Alors, c'est intéressant parce que vous, Louis Rousseau, vous reprenez exactement les mots du premier ministre François Legault qui a dit au lendemain de cette crise-là que tout le monde doit faire sa part, pas seulement le gouvernement, mais aussi les Québécois et les Québécoises.
Dois-je payer des droits d'auteur au premier ministre?
Je ne sais pas, mais on doit au moins s'abonner à un journal. Alors, il a invité chacune à aller s'abonner à au moins un journal parce que, vous avez raison, de plus en plus, d'ailleurs, vous ne pouvez plus vous abonner au journal La Presse. Hein? C'est un journal auquel on était abonné.
On peut faire des dons.
Mais on peut faire des dons, mais on ne peut plus s'abonner puisque ce journal-là est complètement gratuit. On peut le lire sur notre Internet et tout ça. J'aimerais ça vous entendre justement là-dessus. Parlons pas tout de suite de la taxation ou des solutions, mais parlons de cette idée-là là, de vous-même vous abonner à un journal. Mireille Destou, c'est une proposition qui vous intéresse.
Oui, bien en fait, moi j'aime bien la tactique du devoir qui nous rappelle à chaque lecture, ceci est votre premier article dans le mois, deuxième,
voilà, vous en avez quelques-uns par mois.
Quatrième, voilà. Moi, personnellement, ce qui affiche, c'est que j'ai le droit à quatre articles. je trouve que c'est très raisonnable comme manière de fonctionner, dans le sens que, l'information aussi, la démocratie veut aussi que, la démocratie, selon moi, est plus saine quand l'information circule aussi. Par contre, pour avoir de l'information de qualité, pour effectivement payer, voir qui est derrière et payer pour leur travail, je crois que c'est important de s'abonner. Alors moi, ça me fait faire un examen de conscience, tout ça. Et effectivement, dans le budget, je pense qu'il faut prévoir un certain montant pour l'abonnement à des médias de qualité. D'ailleurs, c'est vrai aussi aux États-Unis. Là, moi, quand je lis le New York Times, le Washington Post, on a un peu la même tactique où on nous rappelle que c'est encouragé de donner un certain montant à chaque mois. Ça, c'est d'un point de vue individuel. Par ailleurs, moi, je trouve que la crise des médias, ici, on parle du financement des médias, on parle aussi parfois de la concentration des médias dans les mains de certains magnats et tout ça. Et je crois qu'il y a un autre aspect de la question qu'on devrait discuter davantage. C'est la question de la qualité de la production médiatique et aussi peut-être une certaine éthique du journaliste ou de la production journalistique. Moi, il y a certains chroniqueurs dans certains journaux populaires que je ne lis plus parce que je suis heurtée. Je le sais, là, je veux dire, ça va prendre deux paragraphes et je vais être heurtée dans certaines valeurs. J'ai l'impression qu'on brime certaines personnes. Il y a des publications qui ont été faites aussi, là, au niveau d'une certaine, je dirais, violence verbale là, qui devient trop commune, que ce soit dans les médias sociaux et même dans des grands, dans des journaux. Là. Alors, on attaque certaines personnes, on attaque des orientations sexuelles, des identités, des groupes. Moi, ça me questionne beaucoup en tant que société qu'on en soit rendu là.
Mais est-ce que c'est justement pas une façon de sanctionner ces médias-là en cessant tout simplement de les lire et en cessant de les acheter? Est-ce qu'on ne contribue pas d'une certaine manière au problème en empêchant justement des gens d'exprimer leurs opinions à l'intérieur de ça?
Ah ben non, mais là, je veux pas dire... Moi, je suis pas du tout contre la liberté d'expression, mais ici, c'est vraiment, il faut le voir d'un point de vue d'un choix individuel que moi, je fais. Je choisis une meilleure qualité de médias et aussi, ben, on reconnaît certains chroniqueurs, oui. Je dirais, que moi, je choisis de ne pas lire. Je veux pas dire qu'ils ont pas le droit de s'exprimer, là, pas mm-hmm. du tout, c'est pas ça que je veux dire. Donc, il faut chercher l'information de qualité et être prêt, je crois, à payer un certain montant pour encourager ce bon journalisme.
Alors, parlons aussi d'un autre sujet bien, qui est intéressant. Est-ce que on comprend la réserve, en tout cas, des journalistes particulièrement, d'imaginer que leurs journaux seraient complètement financés par l'État? Et ça, c'est toujours embêtant du côté des médias. On veut avoir cette liberté-là, ne pas dépendre d'un seul bailleur de fonds parce qu'on a tendance à cesser de le critiquer ou enfin à cesser de couvrir certains faits qu'ils pourraient commettre ou encore on pourrait éviter de mener certaines enquêtes, par exemple. C'est un problème réel,
oui,
ça.
Oui, moi, je pense que quand on parle de l'aide de l'État, qui est une partie de la solution, la première chose que l'État doit faire, c'est d'avoir des lois efficaces protégeant le droit d'auteur. Et de cette façon-là, déjà, ça forcerait le reste de la chaîne à payer le prix de ce que l'on diffuse. Mais l'État pourrait intervenir via non pas des problèmes de subvention, parce que vous avez raison, et nous avons l'expérience au Canada de la volonté incessante du gouvernement fédéral, quelle que soit sa couleur, de contrôler l'expression des opinions dans la chaîne d'État.
Absolument, oui.
Radio-Canada, ça fait au moins 40 ans que je me rends compte qu'un nouveau gouvernement arrive et il se fait que ses orientations sont davantage analysées de manière critique par des journalistes de la radio et de la télévision d'État. Et hop, tout d'un coup, on dit « Oui, mais le budget de Radio-Canada, l'État met beaucoup trop d'argent là-dessus. » Donc, ce n'est pas sous la forme d'une subvention, mais ça pourrait être fait d'une autre manière, en redistribuant en quelque sorte les produits d'une taxe, précisément celle qui veut protéger les droits d'auteur. Et à ce moment-là, il y a une espèce de prorata. On ne discute pas. Ça favorise ni défavorise aucun média plus spécifiquement, de telle sorte que la liberté d'expression que les propriétaires de ces médias-là pourraient de cette façon-là faire régner dans leur boutique et au niveau des employés également. Donc, je me méfie de la subvention où on pourrait facilement tomber dans le conformisme politique. Si je veux avoir des sous, faut pas que j'attaque, faut que mon opinion soit favorable à celle du gouvernement.
Alors, continuons un peu sur ce modèle de taxation là, des grandes entreprises. Là. Alors, on entend bien, mais on imagine mal le gouvernement Legault, par exemple, décider d'aller taxer Google ou Amazon, alors que le gouvernement fédéral n'y va pas de ce côté-là. Il ne le fait pas, en tout cas, pour Netflix, de ce côté-là. Alors, j'ai l'impression que le pauvre gouvernement Legault a les mains attachées d'une certaine manière. Là.
Non, je ne crois pas. Le gouvernement Legault a manifesté l'intention, on n'a pas encore vu la loi,
non, bien sûr.
Mais ça fait partie du droit d'un État reconnu mondialement que de taxer une partie des profits que font les entreprises. Le problème des entreprises globales, multinationales, c'est de trouver le critère. Mais déjà, l'exemple français, par exemple, qui dit, ben l'argent que Netflix ou Google fait à partir de clients qui sont abonnés à ce service-là sur mon territoire, ben voilà, il y a une taxe de vente. Personne ne conteste les taxes de vente. Alors, vous vendez un service et le gouvernement pourrait recueillir. Je ne sais pas que c'est faisable. Je crois que j'espère plus que je crois, mais l'espérance est en partie croyante que quelque chose va se faire.
On parle aussi d'offrir des incitatifs financiers aux propriétaires des entreprises de presse, notamment sur la masse salariale. J'ai l'impression qu'on va assister dans les prochains mois à une série de recommandations ou de propositions qui pourraient aider les médias. Mais est-ce que c'est pas trop tard, Frédéric Barriot?
Il le faut. En fait, moi, ce qui m'a surtout vraiment choqué, piqué, évidemment, c'était d'entendre M. Pelladeau, hein, donc aller qualifier donc le groupe rival, les groupes rivaux, finalement, de quêteux de subventions et de têteux de subventions. Écoute, il faut quand même se situer. Là, qu'est-ce qui explique, finalement, que ce groupe-là en particulier, s'il est un groupe de presse qui a bénéficié des largesses de l'État, j'en vois pas beaucoup d'autres. Hein. On voyait que la hauteur des subventions qui sont consenties au groupe Québécois, au premier groupe médiatique au Québec, est énorme. Mais le groupe Québécois ne serait pas ce qu'il était si d'entrée de jeu, hein, dès l'achat du groupe Vidéotron, ouais, donc je constate quand même que c'est l'une des, j'utilise de gros guillemets, c'est la plus grande fraude fiscale des dernières années au Québec, hein, quand même. Là.
Heureusement que vous utilisez les guillemets.
Mais une largesse, en tout cas, à toutes fins utiles, qui a permis à ce groupe-là vraiment de prendre son envol. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, ce qui est vrai pour l'un devrait l'être aussi pour l'autre. Ça ne pose pas moins la question, donc, de la nécessaire indépendance, mais quand même, là, avec un amphithéâtre aussi à moitié vide qui a coûté 400 millions, et ainsi de suite, et cette intégration-là, faut le dire ces choses-là. Donc, ce que demandent les groupes rivaux, bien sûr, c'est tout simplement donc d'avoir un peu d'air,
Oui, Monsieur Rousseau parlait d'espérance. Alors, malgré tout ce que vous dites, Frédéric, il y a Michelle Obama qui va être invité dans le centre Vidéotron qui s'en vient. Oui, bon. Alors, il y a de l'espoir en monde. Mais par ailleurs, moi, je me questionne aussi sur ce qu'on appelle le journalisme individuel, dans le sens que sur Facebook, sur Twitter, on devient nous-mêmes des petits journalistes qui travaillons gratuitement le soir comme ça pour notre propre plaisir. Mm-hmm. Ça me questionne aussi dans ce dossier-là. Peut-être un autre sujet une autre fois.
Ben oui, absolument. Ben alors, je vous rappelle que le 19 août dernier, le groupe Capital Média, propriétaire de 6 journaux quotidiens, s'est placé sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. On cherche actuellement à trouver un nouveau propriétaire à ces journaux-là. Alors, j'imagine qu'on va en parler aussi dans les prochaines semaines, puisqu'en tout cas, il semble bien que l'échéance de Noël soit particulièrement importante là, pour ces journaux-là. Alors, c'est le moment de cette émission où on fait le tour de nos trois chroniqueurs et chroniqueuses pour qu'ils nous parlent un peu d'événements ou de sujets dont ils veulent bien nous parler. Alors, j'imagine que Frédéric, vous allez nous parler du prochain numéro de la revue Relations.
Oui, effectivement. Donc, on prépare un très bon dossier donc sur la ville juste, dans les conditions donc pour rendre nos villes justes et solidaires. Donc, il y aura différentes perspectives donc sur les différentes exceptions de la justice. Donc, en contexte de gentrification, de racisme, d'expulsion. Donc, et ça s'accompagnera. Donc, le numéro va être en kiosque le 20 septembre prochain et ça s'accompagnera les 4 et 5 octobre prochain. Donc, d'une journée d'études ou d'un colloque, en fait, puisque ça se déploie sur 2 jours. Donc, autour de ces enjeux-là. Donc, on va essayer de faire du pouce autour du dossier lui-même, mais aussi aller plus loin, donc, en réunissant à la fois, donc, des universitaires, mais aussi des gens, donc, engagés dans diverses luttes urbaines sous forme d'ateliers. Donc, le 5 à la Maison Bellarmine et le 4 au Centre Saint-Pierre.
Mireille Dastou, une suggestion?
Oui, en fait, moi, j'ai l'intention d'assister à une projection d'un documentaire qui va être présenté par un historien. Ça va avoir lieu au Musée de l'Holocauste, ici à Montréal. C'est un documentaire qui s'appelle « Who will write our history? » qui va être suivi de la présentation par un historien qui a inspiré, en fait, ce film. Alors, ça me semble être intéressant, toute cette question, qui écrit l'histoire, qu'est-ce qu'on retient dans les archives, à qui on donne la parole, quels témoignages oraux aussi sont entendus, passent dans l'oubli. Alors, ça me semble être un sujet toujours important de se rappeler qu'il y a des gens qui écrivent l'histoire derrière.
Alors, rappelez-nous la date.
C'est mercredi prochain, le 18 septembre. Donc, l'information est disponible sur leur site Internet, le Musée de l'Holocauste de Montréal.
Un très beau musée, d'ailleurs, peut-être pas assez connu, mais un très beau musée. Louis Rousseau, une suggestion.
Ben écoutez, je ne puis qu'appuyer la suggestion qu'a fait mon collègue en lien avec le numéro spécial et le colloque sur le niveau municipal. Je fais le lien avec le sujet dont nous venons de parler, soit les médias locaux, les médias régionaux ou des fois les médias qui s'occupent de faire circuler l'information concernant l'activité au sein d'une même municipalité. Il y a là, je dirais, un nouvel éveil qui est en train de se faire. Je dis l'éveil, on n'est pas du tout encore, la population n'est pas encore tout à fait réveillée, mais il y a le début d'un éveil pour prendre conscience qu'énormément de questions qui ont une portée très large se passent à un niveau municipal et qu'au niveau municipal, la conscientisation des citoyens qui s'organisent en groupe de pression ou en parti municipal, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et qu'à ce niveau-là, la surveillance que les citoyens d'une ville peuvent faire à l'égard ou à l'endroit des forces qui les dirigent et qu'ils ont élues est quelque chose d'extrêmement important. Cette surveillance n'est pas possible s'il n'y a pas des médias qui peuvent être très modestes ou beaucoup plus importants, mais qui s'intéressent à la politique municipale. Les questions de voirie, les questions d'équipement sportif, de santé, etc., l'impact de ce que nous faisons dans nos villes sur la pollution comme phénomène terrestre, tout ça a de l'importance et je sens un éveil qu'on pourrait appeler municipaliste pour revaloriser ce niveau-là que, hélas, les grands médias ont fréquemment choisissent de le négliger puisque ben ça intéresse qui, ça a pas de portée trop générale et ce silence par rapport aux enjeux municipaux est une des grandes lacunes de nos démocraties où les grandes forces économiques au fond se font exercer contre la population.
Alors, une bonne suggestion. Alors, et pour en terminant, je vais y aller moi aussi avec une suggestion. En fin de semaine, vendredi et samedi, si ça vous intéresse, allez du côté du Vieux-Montréal, puisque les bouquinistes de Bon Secours seront en place. On va vendre des milliers de livres, des livres d'art, des encyclopédies, des romans, de la poésie, des livres religieux aussi, devant la chapelle de Rame de Bon Secours. C'est une façon de recueillir des fonds pour les activités du musée Marguerite Bourgeois. Donc, vendredi et samedi, les bouquinistes de Bon Secours. Ben voilà, c'est tout pour notre première table ronde cette année de Foi et Turbulence. J'espère que vous avez apprécié la joute oratoire à laquelle se sont livrés nos invités. Alors, l'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut de pastoral des Dominicains avec l'aide de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans 2 semaines, soit le mercredi 25 septembre. On vous y donne déjà rendez-vous. La semaine prochaine, Foi et Turbulence en Formule Magazine va recevoir, entre autres, l'historien Dominique Laperle, membre du comité organisateur du colloque annuel de la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique. Son prochain colloque aura pour thème Benoît Lacroix et les Dominicains. Merci à nos invités, Mireille Dastou, Frédéric Barriot et Louis Rousseau. Merci à Mathieu Lavigne, le coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin, à la régie Radio-VM. À l'animation, François Gloutenay de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.